Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances et ont l'esprit reposé en vacances. Peut-être certains d'entre vous bossent et donc voient les autres en vacances, mais eux sont au travail. Peut-être vous vous êtes levé en pleine forme ce matin parce que le soleil réjouit votre cœur et quand vous voyez le soleil, vous êtes en forme pour la journée. Peut-être que vous êtes de ceux qui se lèvent tôt et qui n'ont aucun problème à prendre le bus ou prendre la voiture pour venir louer Dieu un dimanche matin. Ou peut-être, ayant travaillé toute la semaine, le dimanche matin, c'est un peu plus dur de se lever. Ou alors vous n'êtes pas du matin et il vous faut du temps, un café, deux cafés, trois cafés. Et puis peut-être vers 10h, 11h, là vous commencez à émerger, à faire surface. Et donc, vous avez peut-être des circonstances aussi de vie ce matin qui font que vous êtes joyeux ou au contraire triste. Peut-être dans le deuil, peut-être une maladie qui vous affecte et qui fait que ce matin, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Si vous pouvez chanter pleinement tous ces chants que nous avons chantés, et entendre ce message que la grâce de Dieu nous suffit. Moi, je ne suis pas trop du matin. Et au solde, j'ai trouvé ce t-shirt qui le dit. Je ne suis pas du matin, en anglais. Voilà. Alors ça nous permet d'apprendre l'anglais en famille. Ça permet de rappeler à ma femme et à mes filles que, oui, le matin, je ne suis pas opérationnel avant un certain temps. Et pour éviter de le dire matin après matin, j'ai acheté un pyjama où c'est marqué, il suffit de lire le message. Comme ça, je n'ai pas à répéter le message tous les jours. Alors, un petit truc, j'en ai aussi un pour le week-end, pour dire que je suis en week-end, et que donc, c'est pas la peine de trop me solliciter sur mes jours de repos. Voilà, je suis en repos. Voilà. Donc des messages ciblés, voilà. Et parce que moi, je ne suis pas trop du matin. Il me faut me réveiller, atterrir, avant d'être un peu opérationnel. Nous ne sommes pas toujours frais et dispo, ou dans de bonnes dispositions, pour attaquer une journée, ou pour venir rendre un culte à Dieu. Nos circonstances, notre caractère, notre état de santé joue aussi sur notre motivation pour entrer dans une nouvelle journée que Dieu nous donne, pour le louer, pour le remercier. Il y a ce chant que nous avons chanté ces derniers dimanches, que nous aimons chanter. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Et ce n'est pas quelque chose qui nous est toujours naturel ou que nous faisons toujours spontanément chaque matin. Pourtant, c'est dans ce but que Dieu nous a créés, pour que nous profitions de la vie qu'il nous a donnée et lui en être reconnaissants. Ou pour le dire autrement, avec le vocabulaire de la première partie de notre culte, pour reconnaître que la grâce de Dieu nous suffit. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire quelques versets tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Donc vous ouvrez juste quelques pages au début de la Bible. Vous trouvez dans votre smartphone le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 2. Je vais lire les versets 15 à 17, et je lirai aussi un verset au chapitre 3. Genèse 2, à partir du verset 15.
Est-ce que vous voulez que je
lise ? Vas-y, Joy.
De 15 à 17 ?
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui.
Oui.
L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Et au chapitre 3, le verset 1.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de feuilles de pain de tous les arbres du jardin?
Merci. Voilà, juste ça pour notre lecture ce matin. Des versets bien connus sans doute, qui peuvent nous aider à être ou à rester dans une attitude de louange et de reconnaissance tout au long de cette journée, tout au long de cet été, quelles que soient les circonstances, et qu'on soit du matin ou pas du matin. Après le récit de la création au chapitre 1 de la Genèse, qui est une sorte de plan large de l'œuvre de Dieu, nous sommes ici au chapitre 2, un peu dans le détail de l'apparition de l'homme et de la femme. Hein, comme si l'auteur faisait un peu un zoom sur ce qui se passe dans ce petit jardin d'Éden. Nous avons lu au verset 15 que Dieu place l'homme qu'il a créé dans un jardin luxuriant. Il faut relire le chapitre 2 pour voir tout ce qu'il y a de beau dans ce jardin. Et le texte nous dit littéralement, Dieu installe l'homme, un peu comme s'il installait son représentant sur terre. Et Dieu confie à l'homme une mission, cultiver, littéralement servir, et garder ce jardin. Le mot Éden, d'ailleurs, signifie lieu de délice, hein, et donc Dieu place l'homme, Dieu installe l'homme dans ce lieu de délice, dans ce jardin luxuriant. Alors de ce texte, nous nous rappelons souvent de l'interdit du verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, ou tu mourras certainement, comme il a été lu dans la traduction. C'est la parole de Dieu à laquelle l'homme et la femme ont désobéi, séduits par le serpent. C'est ce que nous voyons au chapitre 3, après le verset que nous avons lu tout à l'heure. Mais ce n'est pas cet élément du texte qui est d'abord mis en relief. Avant de poser une limite ou un interdit, Dieu demande à l'homme de jouir de la vie qui lui a été donnée. Verset 16, la première partie, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dans le texte en hébreu, on a lu un peu quelques cantiques avec des paroles en hébreu tout à l'heure. Dans le texte original en hébreu, il n'est même pas dit tu peux manger, mais c'est plutôt un impératif. Certainement, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Dans le texte original en hébreu, toujours, l'expression de tout arbre, de tous les arbres, est placée au début de la phrase. Et l'homme est invité, la phrase est au futur, hein, tu mangeras, à manger de tout ce qui se trouve de bon dans les arbres du jardin d'Éden. Notez que ce n'est pas une option. Dieu ordonne qu'il en soit ainsi. Verset 16. Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger, ou plus précisément, tu mangeras certainement de tous les arbres du jardin. C'est la même formule qu'on trouve au verset 17 quand il est dit que s'il mange de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement il mourra. Vous voyez ? On a la même expression qui est répétée. Au verset 16, Dieu dit qu'il est certain que l'homme est appelé à manger de tout ce qui est bon pour lui. cet appel à la vie, à la jouissance de la vie. Et parfois, pour ne pas dire souvent, laissé de côté. Et nous avons tendance à focaliser notre attention sur la parole divine du verset 17, l'interdit qui porte sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il est vrai que cet arbre a une importance cruciale dans le texte et puis dans toute l'histoire de la Bible et de l'humanité. Seulement, cet interdit, cette limite, est précédée d'une parole divine qui est tout aussi importante. Et il nous faut respecter le texte et l'écouter de cette manière. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a comme conséquence pratique pour nous? Eh bien, cela nous parle de la direction que Dieu donne à notre vie humaine. Dieu nous appelle à profiter de la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Dieu nous appelle à profiter de la vie qu'il nous donne cet été. Dans les limites qu'il a posées. Et vous voyez, l'appel à la vie, l'appel à profiter de la vie, est premier. Et dans un deuxième temps, qui est complémentaire du premier, bien sûr, Dieu fixe les règles, les limites de cette vie bonne et belle qu'il nous donne. Et si l'on inverse les priorités et que l'on focalise son attention sur l'interdit seulement, eh bien, on pourrait finalement croire et vivre de la manière suivante. On pourrait croire que être chrétien, ce serait premièrement respecter des règles que Dieu donne, et deuxièmement, si cela est possible, profiter de la vie. Et dans cette deuxième manière de penser, on en vient à douter de la bonté de Dieu. Dieu devient un Dieu exigeant, ce qu'il est dans une certaine mesure, nous dit la Bible. Et Dieu devient celui qui nous prive d'un certain bonheur. Et ce Dieu-là, je mets le mot Dieu avec un petit dé, ce Dieu-là, soit nous nous y soumettons en lui sacrifiant notre bonheur, soit nous le fuyons, soit nous nous révoltons contre lui. Ce qui revient finalement au même dans les trois situations, nous nous éloignons de notre Créateur. Et remarquez que c'est exactement ce à quoi Adam et Ève sont arrivés à cause du serpent au chapitre 3. Ils ont fini par s'éloigner de leur Créateur. Que dit le serpent? Je relis le premier verset du chapitre 3. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors là, de nouveau, il y a une petite différence dans le texte hébreu par rapport à nos traductions. Dans le texte hébreu, il n'y a pas de question. C'est une affirmation. Et le serpent commence par dire, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Que se passe-t-il ici? Le serpent inverse l'ordre des mots que l'on trouvait dans la bouche de Dieu dans les versets précédents. Dieu commençait par dire à l'homme, de tout ce qu'il y a dans le jardin, tu mangeras, certainement. Vas-y, c'est pour toi. D'accord? Et dans le discours du serpent, les mots de la phrase sont inversés. Là où Dieu voulait que l'homme mange de tout ce qui est bon, le serpent dit que Dieu ne veut pas que l'homme mange de tout. Vous voyez là, le renversement des mots, juste avec une négation, ne pas. Juste en retournant la parole de Dieu de manière négative. Le serpent insiste sur le négatif, ne pas manger de tout. Alors que Dieu disait, de tout tu mangeras, En introduisant la négation, le serpent renverse les mots de la phrase et il fait passer cette nouvelle formule pour la parole de Dieu. Il dit, c'est la vérité, c'est vraiment ça que Dieu a dit. Il n'y a pas de question ici, mais une affirmation sournoise. Et c'est cela qui finit par séduire Adam et Ève. Cette idée que Dieu n'est au fond pas si bon que cela. Car s'il était vraiment bon, il n'aurait pas fixé de limite à notre jouissance de la vie. Dieu devient alors, pour eux, un affreux privateur de bonheur, d'un bonheur total. Et ce qui était au départ un appel à profiter de la vie se transforme en frustration et en plainte contre le Créateur. Et la fameuse consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est finalement l'aboutissement de cette mentalité qui dit, eh bien, puisque Dieu nous prive d'un bonheur absolu, total, décidons nous-mêmes ce qui est bien et mal et profitons de la vie à notre manière. Et vous voyez comment pour l'homme et la femme, la grâce de Dieu ne leur suffit plus. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes là ce matin. Oh, si, j'en ai quand même une idée, de manière globale, mais pour chacun d'entre vous personnellement. Je connais pour certains d'entre vous quelques éléments de votre parcours. Quelle est votre mentalité ce matin? Avec quelle pensée abordez-vous cette période estivale et la canicule de cette semaine? Je ne sais pas comment vous avez chanté les cantiques tout à l'heure, prié. Je ne sais pas quelles sont vos circonstances de vie ce matin, cette semaine. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je n'étais pas toujours du matin. J'ai à peu près réussi à chanter les chants de tout mon cœur ce matin et bien réveillé. Merci Seigneur. Ce que je sais, en tout cas ce que je comprends de ces versets que nous méditons ce matin, c'est que Dieu nous appelle à jouir de la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Voilà, c'est ça le message à retenir ce matin. Dieu nous appelle à jouir de la vie qu'il nous donne aujourd'hui, pendant cet été. Alors, nous ne vivons pas dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2 n'existe pas pour nous. Il a existé pour Adam et Ève. Aujourd'hui, nous vivons la réalité de Genèse chapitre 3. Le péché et la mort, ainsi que leurs conséquences, sont dans notre humanité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, en 2019. Et pourtant, l'appel de Dieu à l'homme et la femme en Genèse chapitre 2 est toujours le même. Jouis de tout ce que je te donne de bon. Jouis de tout ce que je te donne de bon. Et donc, ce matin encore, nous sommes invités à profiter de cette journée que Dieu nous donne. Ne nous laissons pas séduire par la voix du serpent, qui est encore active, même si nous savons que c'est pour peu de temps. Ne nous laissons pas séduire par notre adversaire, qui essaye toujours et encore de nous faire croire que Dieu n'est pas bon ou pas si bon que cela, et que nous avons raison de nous plaindre de notre Créateur, de son appel, de ses projets pour nous, du conjoint qu'il nous a donné, ou de notre célibat, de nos enfants, de notre église, de nos parents, de notre santé, physique ou spirituelle, de l'état de notre compte en banque, de la météo, etc., etc. Si souvent, nous en voulons à Dieu de ne pas faire les choses selon nos critères de bien et de mal. Et ça, c'est cette mentalité, nous l'avons héritée de la mentalité d'Adam et Ève depuis qu'ils ont été séduits par le serpent. Au contraire, inclinons notre pensée vers notre Créateur pour lui offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance, comme dit le chant, parce qu'il est bon. Dans l'épreuve ou dans les difficultés, ce n'est pas forcément la pensée qui nous vient en premier. Dieu, tu es bon. Même si je suis malade. Dieu, tu es bon quand je suis dans le deuil. Dieu, tu es bon quand je ne sais pas ce que va devenir mon avenir professionnel. Dieu, tu es bon quand je suis à découvert 10 jours avant de recevoir mon salaire. En Christ, nous sommes libérés de la mentalité du serpent. Cette mentalité qui était devenue la nôtre avant de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes libérés de cette mentalité. Oh, elle nous rattrape, n'est-ce pas? Elle nous rattrape souvent. Mais nous n'en sommes plus esclaves. Et lorsque nous entendons de nouveau cette voix qui nous dit, écoute, tu vois ce que tu vis là? Dieu est-il si bon que cela? Oui, amen. Dieu est bon. Ce qui est important dans notre vie chrétienne, ce n'est pas forcément ce que nous vivons ou les épreuves que nous traversons, mais la manière dont nous les traversons. Nous n'avons pas toujours de réponse à nos pourquoi. Pourquoi telle maladie? Pourquoi tel licenciement? Parfois, lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons réfléchir sur la direction que Dieu nous a fait, le chemin que Dieu nous a fait emprunter. Mais nous n'avons pas toujours de réponse à nos pourquoi. Par contre, nous avons notre part pour donner une réponse au comment. Comment est-ce que nous traversons notre maladie? Comment est-ce que nous vivons notre période de chômage? En louant le Seigneur ou en nous révoltant contre lui? Ne nous remettons pas cette semaine sous le joug de cette mentalité du serpent qui veut nous faire croire que Dieu n'est pas bon. Mais demandons à Dieu sa grâce pour cette journée, pour cette semaine, pour cet été. Souvenons-nous de sa bonté et soyons attentifs à tout ce qu'il nous donne de bon aujourd'hui. Ou comme nous l'avons dit tout à l'heure, souvenons-nous que sa grâce nous suffit. Je vous invite à prier. Ô Dieu, c'est toi qui nous as créés et tu connais bien notre vie, tu connais bien notre mentalité, tu connais nos sentiments et nos pensées ce matin. Nous voulons simplement nous présenter devant toi tel que nous sommes à l'instant et te demander de nous faire grâce. Tu connais nos sentiments de révolte. Pardonne-nous et ramène-nous vers toi. Tu connais nos sentiments de joie et de reconnaissance. Aide-nous à persévérer et à continuer pendant cette semaine à à te louer et à tourner notre cœur vers toi. Seigneur, je te prie pour celles et ceux d'entre nous qui traversent une période particulièrement difficile, sur un plan familial, sur un plan professionnel, sur un plan spirituel peut-être, ou sur un plan de la maladie. Seigneur, aide-nous dans ces circonstances à nous souvenir que tu es bon, que tu nous aimes, que tu prends soin de nous, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive et nous n'avons pas toujours les yeux fixés sur toi pour garder confiance. Aide-nous à relever la tête. Relève notre tête, Seigneur. Et en regardant à toi, que nous puissions trouver ou retrouver confiance en toi. Non pas en nous-mêmes, mais en toi. Fortifie notre foi. Et si nous pouvons te demander cela ce matin, c'est parce que ton Fils Jésus nous a réconciliés avec toi. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.